qu'il y a de perturbant avec l'État islamique, en fait, c'est la mixité des modes de commandement. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à considérer que finalement l'État islamique, c'était une entité qui donnait directement des ordres et puis ensuite les gens passaient à l'action, hein, donc suivant un mode finalement très directif. En réalité, on voit qu'il y a une coexistence entre ce mode d'ordre donné directement avec ensuite des ordres qui rejoignent finalement les logiques de ce qu'on appelle en Allemagne l'Auftragstaktik, hein, le commandement par l'intention. Et où donc là, le but du jeu, c'est de dire aux gens, voilà, quand vous êtes prêts, passez à l'action. Et donc, le lien, tout de suite, est beaucoup plus distendu. C'est un lien qui est de nature plutôt doctrinale, hein, plutôt du niveau des idées, plutôt que des ordres à proprement parler qui sont donnés. Du coup, on a des gens qui sont plus ou moins en lien avec des cellules, avec éventuellement le centre, entre guillemets, hein, c'est-à-dire l'État islamique lui-même, ou d'autres groupes, hein, je pense à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et qui ensuite, une fois qu'ils sont arrivés à maturité dans la préparation de leur plan, passent ensuite à l'action, et ensuite, l'État islamique peut coller son label en disant, nous avons mené une action, etc., etc.
Alors comment se passe cet endoctrinement? Certains des individus isolés ne sont pas passés par la Syrie, comme c'était le cas des groupes plus organisés. Est-ce que c'est seulement par la propagande sur Internet?
La base doctrinale, si vous voulez, de l'État islamique, c'est, in fine, attaquer de toute manière les non-croyants, ce que eux considèrent comme étant les mécréants. Donc au final, on en revient à ça pour la propagation de l'idéologie djihadiste, etc. Donc oui, il y a évidemment des consignes, entre guillemets, qu'on peut retrouver dans les publications de l'État islamique, hein, où il est dit très clairement, quand vous êtes prêts, passez à l'action, etc. Mais au-delà de ça, finalement, la simplicité, entre guillemets, du message djihadiste, permet également aux gens finalement de se radicaliser dans leur coin ou à plusieurs, hein, sans nécessairement être en lien direct et sans nécessairement avoir été engagé au combat en Syrie ou en Irak. La force, une fois de plus, et c'est un des principes de la guerre, c'est la simplicité. Plus quelque chose est simple, plus ça a des chances de réussir.
On a donc un développement de ce type d'actes isolés. Est-ce qu'on peut craindre que ça se multiplie ou est-ce que la stratégie principale du groupe État islamique ou d'autres groupes comme ACMI reste quand même les attentats d'envergure?
À mon avis, ça va se diffuser, ça va se généraliser, mais ça n'empêche pas, et c'est bien là tout le problème, la possibilité d'avoir affaire à des attentats beaucoup plus importants et d'envergure plus importante, précisément en fonction de cette mixité, si vous voulez, entre modes de commandement. Donc le fait de dire à des gens relativement isolés, c'est toujours relatif pour l'instant en tout cas, de dire à des gens relativement isolés, vous passez à l'action quand vous le pouvez, n'empêche pas de pouvoir continuer à monter des opérations assez importantes. Ce qu'on a vu à Bagdad, par exemple, hein, où là, on a le minibus qui va exploser devant un restaurant assez fréquenté, sur une zone dans un quartier assez fréquenté, et qui va faire énormément de morts. On n'est pas nécessairement sur un seul mode de commandement impliquant un seul type de mode d'action. On peut très bien se retrouver avec différents mode de commandement qui implique différentes actions. Et donc, malheureusement, je crains, ce que la littérature dit pour l'instant, c'est qu'effectivement, il y ait une multiplication d'actes isolés, entre guillemets, encore une fois, parce que les gens, pour l'instant, en tout cas, ne sont pas encore totalement solitaires. Hein, ils ne s'autoradicalisent pas tout seuls dans leur coin. Il y a des contacts, malgré tout. Il y a des petites cellules, il y a des contacts plus ou moins informels, il y a des contacts qui sont informels parce qu'ils passent par de la lecture de propagande et ainsi de suite. Donc il y a malgré tout une espèce de continuité, si vous voulez. Il y a pas, le type ne s'autoradicalise pas tout seul dans son coin, pour l'instant. Évidemment, plus l'attaque est simple, plus l'opération est simple, plus sa détectabilité est faible. Moins facilement elle sera détectable, elle sera d'autant plus furtive qu'elle est simple, si vous voulez. Les groupes djihadistes sont en train de se rendre compte que cette simplicité, finalement, elle paye au sens où elle met les gens à vif. Et elle pousse les États occidentaux à l'erreur en accroissant petit à petit la pression. Et cette stratégie de coup d'épingle, entre guillemets, parce que c'est vrai que le gars avec son couteau, sa hache, finalement ne cause pas le déraillement du train, je veux dire, il n'y a pas des dizaines de morts, etc., etc. Mais la société allemande, en l'occurrence, hein, mais ça pourrait être toute autre société européenne, met ces sociétés-là sous pression et pousse, si vous voulez, le niveau politique, s'il ne garde pas son sang-froid, à commettre des erreurs. Et ça, évidemment, c'est un piège.
Qu'est-ce qui explique l'attraction du groupe État islamique par rapport à d'autres groupes terroristes ? Est-ce que c'est un effet de mode ? Est-ce qu'ils ont trouvé les moyens de parler ?
Les gens qui sont susceptibles de rejoindre le djihad vont rejoindre l'acteur le plus puissant. Ils préfèrent être du côté du « vainqueur », entre guillemets, hein, plutôt que de se retrouver finalement avec des acteurs considérés comme mineurs. Et donc, du coup, le fait que l'État islamique ait à un moment donné effectué pas mal de conquêtes territoriales, etc., et dispose toujours d'un certain nombre de conquêtes territoriales, même si elles sont en train de se réduire, ça crée un phénomène d'attractivité. Et donc plus l'État islamique va perdre en puissance sur le terrain, plus il perdra également en attractivité. Maintenant, le problème, c'est que le djihadisme est un phénomène beaucoup plus large et que, quand bien même on aurait liquidé l'État islamique, l'idée même du djihadisme n'en aurait pas disparu pour autant. Donc un autre acteur prendra le relais et générera à lui-même, à son tour, une attractivité stratégique.
Donc c'est à cause de cette attractivité, par exemple, qu'un groupe comme Boko Haram s'est rallié à l'État islamique. En revanche, il y a la rivalité encore en Afrique de l'Ouest d'ACMI.
Boko Haram, c'est vraiment une dynamique d'ordre régional. On est face à quelque chose qui a généré une attractivité un petit peu du fait qu'il était stratégiquement attractif pour le djihadiste local, mais qui s'est nourri aussi d'autres phénomènes, et notamment les erreurs de l'armée nigériane, par exemple. L'armée nigériane, dans un certain nombre de cas, était assez brutale à l'égard des populations locales, et les populations, finalement, elles font leur marché en termes de sécurité. Et donc, si à un moment donné, un acteur lui offre plus de sécurité qu'un autre, eh bien, ça peut aboutir à des phénomènes paradoxaux, comme de voir rejoindre des gens qui ne sont pas spécifiquement des djihadistes, les voir rejoindre Boko Haram, parce qu'au moins Boko Haram ne les tue pas. La logique derrière l'État islamique, c'est de prendre un territoire. ACMI a tenté le coup, ACMI s'y est cassé les dents. Et d'ailleurs, il n'y avait pas qu'ACMI, hein. Il y avait en Sardine, il y avait Al-Mourabitoun, enfin, il y avait toute une série de groupes. Mais pour l'instant, ACMI est plus dans une logique de harcèlement des forces maliennes, enfin des forces africaines, des forces françaises et ainsi de suite, que dans une logique d'emprise territoriale comme peut l'être Boko Haram ou même ou l'État islamique, que ce soit au Sinaï, que ce soit au Moyen-Orient.
Mais là où les groupes quand même se retrouvent, c'est sur les motivations de leurs adhérents.
Là, on a, si vous voulez, deux branches différentes du djihadisme. ACMI, au départ, son affiliation, c'est Al-Qaïda. Même si on remonte plus loin, c'est le GSPC, c'est ce qu'on trouvait en Algérie, etc., etc., durant les années 90. Donc, ils ont rejoint cette logique d'Al-Qaïda, qui était de dire, avant d'établir le califat, il faudra d'abord mettre à bas ses ennemis potentiels. Donc les États occidentaux, grosso modo, et les États comme le Mali, comme les États africains, etc., considérés comme impies. Et une fois que ça s'est fait, ensuite, on peut créer le califat. La logique derrière l'État islamique, c'est différent. C'est une logique où on se dit, OK, bon, de toute façon, on n'est pas prêt de battre les Occidentaux, donc mettons directement en place ce califat. Et puis après, on aura suffisamment de force que pour combattre les États occidentaux. Le projet, in fine, est identique, mettre en place un califat, sauf que les moyens pour y parvenir, la façon de faire, n'est pas du tout la même.